L'actualité des Alpes du Sud avec Jean-Marie Bernard, placé en garde à vue pendant plusieurs heures.
Le président du conseil départemental des Hautes-Alpes était entendu par la brigade financière à Marseille dans deux enquêtes pour détournement de fonds et favoritisme. Son avocat, Maître Neveu, s'est dit serein après l'audition.
Les terrasses solidaires à Briançon rouvriront aujourd'hui.
La justice a tranché alors que les associations ont reproché à la préfecture son inaction et de ne pas ouvrir de lieu d'urgence. Le tribunal administratif de Marseille renvoie la responsabilité à ces associations sur la possibilité de rouvrir leur lieu de répit des terrasses solidaires.
Les postiers de Fort-Calquier ne lâchent rien et donc, nouveau jour de grève.
Les chargés de clientèle dénoncent un management toxique. 7 bureaux sur 8 seront touchés ce mercredi.
400 victimes de violences accompagnées dans les Alpes de Haute-Provence cette année.
Violences physiques, psychologiques, sexuelles ou même harcèlement sexiste. Le harcèlement sexiste, il en sera d'ailleurs question ce mercredi à Manosque avec une action de prévention.
Et puis sport, Briançon, premier demi-finaliste de la Coupe de France de hockey.
Et bravo aux Briançonnais, aux Diables Rouges de Briançon, victoire 3-2 contre Chamonix. Le tour ce soir des Rapaces de Gap face aux Corsaires de Nantes. Météo.
Oui, alors après une grande partie de la matinée généralement bien ensoleillée sur nos deux départements, eh bien le ciel se charge dès la mi-journée avec l'arrivée d'une perturbation. Les massifs se bouchent, les précipitations qui ont lieu entre l'après-midi et la soirée vont surtout concerner une grande moitié ouest des Hautes-Alpes et l'ouest de Lubaye, une limite puis neige qui pourra descendre jusqu'à 1000-1200 mètres. Côté température, 5 à 9 degrés en vallée sur les Hautes-Alpes, comptez jusqu'à 11 degrés sur les Alpes de Haute Provence. Jean-Marie Bernard a passé plusieurs heures hier en garde à vue.
Le président du conseil départemental des Hautes-Alpes était entendu par la brigade financière de la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille. Deux enquêtes le visent depuis 2019. L'une pour détournement de fonds, l'autre pour favoritisme. Mais à l'issue de cette garde à vue, Christophe Laurenceau, l'avocat de Jean-Marie Bernard, voulait adopter un ton plutôt serein.
La première enquête pour détournement de fonds par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public fait suite au dernier rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion du département. Alors que l'instance n'avait pas constaté de faute pénale, son avocat Philippe Neveu pointe une tentative d'instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes de la part d'un militant d'extrême gauche qui avait porté plainte. Quant à la garde à vue, il n'a rien d'anormal. Au contraire, nous quittons les services chargés de l'enquête aussi sereins que nous sommes arrivés, insiste le conseil de Jean-Marie Bernard.
Soyons très clairs, l'état de garder à vue n'est pas une situation normale en soi, que l'on soit élu ou justiciable. Dans notre quotidien, ce n'est pas notre état normal, effectivement. Mais dans le contexte de cette procédure, dans la mesure où l'audition se préparait pour être longue, compte tenu du grand nombre de questionnements qui étaient susceptibles d'être soulevés, techniquement, la garde à vue était incontournable en termes processuels. En termes médiatiques, en termes de communication, la garde à vue, c'est sensationnel, ça paraît grave. La vérité, c'est qu'en termes de procédure pénale, c'est une garantie pour le justiciable. Ça permet au président Bernard d'avoir la garantie qu'il va avoir l'avocat du département à ses côtés pendant toute la durée de l'audition. C'est un acte technique. Il était totalement prévisible que cette mesure de protection soit préconisée par le magistrat.
En parallèle, une seconde enquête est menée pour favoritisme, faux et usage de faux pour faire la lumière sur 4 marchés publics délivrés lors de sa dernière mandature, des contrats de location longue durée de véhicules de service, de prestation d'un géomètre sur une partie du chantier du Bas de l'Ours, de l'acquisition d'un véhicule pour l'agence routière départementale de type tracteur agricole ainsi que son étrave à neige. Selon Maître Philippe Neveu, il était logique et indispensable que le président de la collectivité qui a passé ces marchés soit entendu, mais il n'y a pas eu d'irrégularité. Dans le cadre de l'attribution de ces 4 marchés, ils sont insignifiants à l'échelle des marchés départementaux, 4 sur près de 380 par an au total. Il n'y a manifestement pas d'enrichissement personnel dans les procédures mises en cause, martèle et conclut l'avocat de Jean-Marie Bernard.
Merci Christophe. Ces audiences sont pilotées par le parquet de Lyon et sa juridiction interrégionale spécialisée. Pour rappel, cette dernière enquête a été réquisitionnée par le procureur de Gap. Elle avait déjà donné lieu à une perquisition dans les locaux du département. C'était en décembre 2020.
Justice toujours avec le tribunal administratif de Marseille qui a tranché. Et les terrasses solidaires à Briançon vont rouvrir.
Et oui, voilà 5 semaines que ce lieu de répit pour les migrants affichait porte close. Les gérants avaient décidé de le fermer face aux conditions de sécurité non réunies. 230 migrants accueillis contre 81 places autorisées. Un bras de fer était depuis engagé entre les associations et la préfecture. Les premiers avaient saisi le tribunal administratif de Marseille, reprochant à l'État son inaction et la mise en danger des migrants. Ils demandaient l'ouverture d'un lieu d'accueil d'urgence. Une demande non retenue par la justice, qui a renvoyé la balle aux associations, estimant qu'il était possible de rouvrir les terrasses solidaires. Peu satisfaisant pour tous migrants, les prérogatives de l'État en matière d'hébergement d'urgence sont ignorées, selon l'association. Martine Clavel, la préfète, elle, souhaite le retour à une situation apaisée. 60 exilés seront donc accueillis dès ce mercredi au sein des terrasses solidaires. Dans le même temps, la tente humanitaire de Médecins Sans Frontières sur le terrain de l'église Sainte-Catherine à Briançon accueillera, elle aussi, des migrants.
Les postiers de Fort-Calquier ne lâchent rien et c'est un nouveau jour de grève.
Grève contre ce qu'ils dénoncent, c'est-à-dire un management toxique et une sanction infligée à l'encontre d'une salariée parce qu'elle est une militante syndicale, c'est ce qu'ils disent. Les chargés de clientèle ont donc baissé le rideau. 7 bureaux sur 8 seront fermés aujourd'hui dans le secteur de Fort-Calquier. Un rassemblement aura lieu à 9h30 devant le bureau de la cité comtale.
Dans le volet de la crise sanitaire, notez ce déménagement du centre de vaccination de Riez.
Il sera à Roumoule dès samedi, dans l'ancienne bibliothèque de la salle polyvalente aux 12 places de la Blachette. Il sera dans un premier temps ouvert le samedi matin et le mercredi après-midi. Et puis notez aussi ces 2 campagnes de dépistage massives et gratuites à Digne-les-Bains, réalisées par une équipe de médiateurs de la Croix-Rouge. Ces tests antigéniques sans rendez-vous seront proposés aux abords des marchés hebdomadaires. Rendez-vous samedi de 8h30 à 12h30 au boulevard Gassendi, le 8 décembre aux mêmes horaires, place du Tampinet. En parallèle, le centre municipal de l'Ermitage renforce ses capacités d'accueil. Les prises de rendez-vous se font sur le site santé.fr ou au 04 23 10 11 75.
L'actualité avec ce chiffre, 400 victimes ont été accompagnées cette année dans les Alpes de Haute-Provence pour violence.
Violence, qu'elle soit physique, psychologique, sexuelle ou même harcèlement au travail. Le CIDFF a dû intervenir dans plusieurs dossiers. Le harcèlement sexiste, il en sera d'ailleurs question ce mercredi à Manosque avec une action de prévention, un théâtre forum qui doit permettre d'apporter des clés pour se défendre. Manosque Queer, Wendo Provence et le CIDFF 04, le centre d'information des droits des femmes et des familles, sont à la manœuvre. CIDFF dont Laetitia Bidalo est la directrice.
Il y aura des personnes formées en fait à la discipline de l'autodéfense qui interviendront auprès des personnes qui seront dans la rue. C'est pour outiller les victimes, soit pour qu'elles ne soient plus victimes ou soit pour qu'elles puissent sortir d'une situation violente. Et l'objet aussi, c'est de faire de la prévention. C'est pas uniquement d'outiller, puisqu'après on peut aller un petit peu plus loin, proposer des stages un petit peu plus longs, mais c'est ça permet par ce biais-là de sensibiliser le grand public aussi à la lutte contre les violences en fait. On accompagne de plus en plus de victimes. L'augmentation de ce chiffre, elle est liée à 3 facteurs selon moi. Le premier, la libération de la parole. Le deuxième, la crise sanitaire qui a eu un impact considérable. Également parce que on a plus de moyens, en fait. On nous a donné les moyens de recruter plus de personnes et donc on est plus nombreuses à pouvoir proposer un accompagnement aux victimes.
Rendez-vous donc donné à la place du terreau de 14h à 16h à Manosque. Ce jeudi, l'opération Sac à pain sera lancée dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes pour sensibiliser la population.
Un nouveau nom à la tête de la CCI des Hautes-Alpes, c'est Frédéric Cavallino.
Pas de surprise hein, pour le patron gapensé de l'entreprise Maximode. L'ancien président Eric Gord a quant à lui décidé de prendre du recul. Il reste malgré tout impliqué comme secrétaire du bureau. Régis Bouchacourt devient vice-président service. Stéphane Abrachi, vice-président industrie. Du côté des Alpes de Provence, c'est le même nom par contre. Daniel Margot a été réélu président de la CCI à l'unanimité.
Et avant le premier tour des municipales de Digne-les-Bains, le temps des règlements de compte.
3 candidats en lice, Gilles Chalvet, Geneviève Primitera et la maire sortante Patricia Granet-Brunello. 2 femmes donc pour le fauteuil de maire. Deux élus qui ont déjà travaillé ensemble. Geneviève Primitera avait été adjointe de Patricia Granet pendant 4 ans avant de démissionner. Patricia Granet-Brunello, à qui ses opposants reprochent d'être macroniste, elle préfère répondre par une liste d'intérêt municipal avec la présence en effet de Georges Pereira, engagé dans le mouvement En Marche, mais avec aussi des personnalités de droite, de gauche, notamment le soutien du PS et de la société civile. Sa campagne, Patricia Granet, la base sur les engagements pris en 2014 qui sont tenus et qui doivent être poursuivis en matière d'attractivité.
On est aujourd'hui, depuis 2017, avec la Covid, avec la crise de la Covid au milieu, on est aujourd'hui à plus de 20 commerces qui sont ouverts en centre-ville. Donc on a un solde nettement positif. On a par exemple permis l'installation et accompagné l'installation de la résidence Domitis. Donc ça va faire de la création d'emplois et de l'emploi induit. On va ouvrir le spa thermal au mois de mars. On travaille sur l'hôtellerie avec des investisseurs pour qu'ils reprennent le Richelm et le Tonic Hotel. On travaille avec Gaia Concept pour qu'ils reprennent l'hôtel du golf. On poursuit l'attractivité de la ville au niveau touristique pour l'embellir de plus en plus. Le plan d'eau, la continuité avec la forêt comestible. On poursuit la mise en tourisme de l'UNESCO Géopard de Provence et donc du musée Promenade. On est en train de réhabiliter des îlots en centre ancien pour refaire de l'habitat de qualité et pour avoir cette mixité plus forte avec des gens qui ont plus de pouvoir d'achat en centre ancien pour consommer dans le centre-ville.
Patricia Granet-Brunello qui écorche aussi au passage la candidature de Geneviève Primitera, elle rappelle le contexte des municipales de 2014 où l'adjointe avait imposé comme condition à sa présence sur sa liste le fait que René Massette n'y figure pas. René Massette, ancien président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, aujourd'hui binôme de Geneviève Primitera. Un vote tendu donc dimanche, mais en toute sécurité en tout cas. Des mesures d'hygiène et de sécurité sanitaire seront mises en place. Un dispositif sur les 12 bureaux de vote qui prévoit notamment la désinfection des locaux, la pose d'une signalétique afin de respecter la distanciation, la présence de parois en plexiglas et la mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée ainsi que de gants et de stylos.
Une chef originaire de Briançon remporte le Bocuse d'Or France 2021 à Reims.
Et vous rêverez de la voir derrière vos fourneaux. À 24 ans, Naïs Pirolet va être la première femme à représenter la France dans l'histoire du concours après s'être imposée devant 5 autres candidats lors de 2 épreuves, celle de l'amuse-bouche et puis celle du traditionnel plateau autour du brochet accompagné de 5 types d'oignons et 3 types de cœur de laitue. Prochaine étape, le Bocuse d'Or Europe, à Budapest, en mars prochain. Objectif, concourir l'année suivante pour un prix mondial, cette fois à Lyon.
Alpes 1 Sport. Avec Briançon, premier demi-finaliste de la Coupe de France de hockey.
Après 30 minutes de jeu vierge, c'est Robin Colomban qui a profité d'une double infériorité numérique pour ouvrir le score. Ça aura ensuite été une course à l'égalisation entre Briançon et Chamonix, deux clubs de Magnus. Mais Yacoub Sedlak marquera le dernier but pour les Rouges dans le troisième tiers. Il file donc vers les demi-finales. Briançon peut désormais attendre avant de connaître son futur adversaire qu'il affrontera le 5 janvier prochain. Ce soir, autour des Rapaces de Gap qui ont toutes les chances de rejoindre aussi le dernier carré puisqu'ils affronteront à l'extérieur l'équipe de Division 1 des Corsaires de Nantes. Des Rapaces qui ont eu plus de chances que les autres équipes puisque des équipes de Magnus vont s'affronter aussi ce soir et vont donc s'éliminer. Bordeaux contre Rouen et Nice contre Angers.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.